Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la myasthénie auto-immune ou myasthénia gravis. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Marché, qui est atteinte de myasthénie auto-immune, mais également patiente experte et représentante du groupe d'intérêt myasthénie au sein de l'AFM Téléthon. Madame Marché, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors Madame Marché, on l'a dit, vous êtes touchée par la myasthénie auto-immune. Comment est-ce que les premiers symptômes de la maladie sont survenus ?
Écoutez, en fait, dans mes souvenirs, ils sont arrivés vraiment de façon brutale. J'avais 10 ans et je me souviens un jour être rentrée de l'école. Je marchais et bizarrement, j'ai remarqué une voiture rouge garée sur le côté de la route. Et en fait, cette voiture, je la voyais en double hauteur, comme si une deuxième voiture était au-dessus de la première. Au début, c'était temporaire et puis ça finit par revenir régulièrement et à me gêner, surtout à l'école, pour un tableau,
etc. Et quel diagnostic a été proposé à cette époque ?
Écoutez, en fait, mes parents m'ont envoyé voir un ophtalmo et très rapidement, en fait, l'ophtalmo a proposé une opération des yeux. L'opération a duré quand même un peu de temps et d'ailleurs, le chirurgien a constaté quand même qu'il y avait une élasticité qui était anormale sur les muscles. On en est resté là et puis dans les mois qui ont suivi, progressivement, j'ai éprouvé des difficultés à manger, parfaitement d'ailleurs, particulièrement de la salade au début, difficulté à déglutir, mastiquer, mes yeux qui ne voulaient plus s'ouvrir. J'avais de plus en plus de mal à marcher, me lever d'une chaise, lever les bras, m'habiller, tenir ma tête. Enfin bref, je n'arrivais même pas à tenir un stylo ou une fourchette. En fait, tous ces symptômes ont amené mes parents en fait, à consulter une neurologue de ville qui ensuite m'a orientée vers l'hôpital de Bordeaux où je suis restée un mois hospitalisée afin de faire tous les examens nécessaires. En fait, je suis restée environ un mois, mais je ne me souviens pas du tout si c'est à ce moment-là que le diagnostic a été posé, puisque j'étais une enfant. Enfin, toujours est-il que, quelques temps après, j'ai été hospitalisée à la Salpêtrière à Paris, 6 mois après environ, et puis j'ai finalement été opérée du thymus. D'ailleurs, ça a eu un effet très miraculeux.
Et ensuite, comment est-ce que vous avez été prise en charge ?
Alors, une fois que le thymus, on m'a enlevé le thymus, j'ai eu un traitement très léger, on va dire, un traitement uniquement symptomatique. Et ça m'a permis de reprendre peu à peu une vie, en fait, qui était vraiment quasi normale. D'ailleurs, je me suis même cru guérie pendant 10 ans. Je voyais une fois par an la neurologue de ville, je prenais le traitement du symptôme en fonction de mes besoins quotidiens. Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai oublié la maladie. Puis j'ai déménagé, puis à l'âge de 20 ans, j'ai eu une première rechute après une opération de la palliative. Et donc, ça m'a conduit à me rapprocher d'une consultation spécialisée. Et d'ailleurs, ça a nécessité aussi de renforcer les traitements. En fait, au fil de la vie, les grossesses, parfois même sans raison apparente, les symptômes sont revenus, plus ou moins forts, pas toujours sur les mêmes parties du corps. Parfois, c'était des durées plus ou moins longues. Et à chaque fois, en fait, il a fallu réadapter le traitement. Chaque fois, il fallait revoir le traitement. Et fort heureusement, on a toujours fini par restabiliser la maladie, parfois sans symptômes, parfois avec des symptômes minimes. Donc voilà, parfois, ça puis vraiment plusieurs années avant de retrouver une vie à nouveau quasi normale ou avec des symptômes minimes. Depuis près de 10 ans, en fait, je n'ai à nouveau plus que des traitements du symptôme. Je n'ai plus de traitement de fond de la maladie. Mon médecin généraliste a pris le relais et je vois en principe un médecin spécialiste tous les 3 à 5 ans en fonction des besoins. Je le contacte plus souvent lorsque j'ai une fatigue qui est particulièrement importante ou lorsque les symptômes touchent la sphère de la gorge. Là, dans ce cas-là, je suis beaucoup plus vigilante.
Alors, durant la préparation de notre interview, vous m'avez indiqué avoir eu 3 enfants, alors qu'il a parfois été recommandé d'éviter une grossesse avec la maladie. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Oui, c'est un sujet sur lequel je suis particulièrement sensible, parce que je constate, en fait, au fil des échanges avec les jeunes femmes qui sont atteintes de la myasthénie, que beaucoup renoncent, en fait, à avoir des enfants, par peur, par méconnaissance, et parfois même, encore, certains médecins déconseillent la grossesse. En fait, en ce qui me concerne, ma première grossesse, elle date quand même d'un certain temps. Ma fille est née en 1988. Et effectivement, déjà à l'époque, il y avait une réticence des médecins. Mais c'est possible. Ce que je voudrais juste dire, effectivement, qu'il y a des précautions à prendre pour la maman et l'enfant. Notamment les mamans qui sont en âge d'avoir des enfants, il faut qu'elles fassent attention effectivement, au traitement qui leur est donné. Il faut vraiment parler aux médecins. Et puis, les enfants, à la naissance, il faut qu'ils soient suivis dans une maternité de type 2 ou 3 pour les surveiller quelques jours. Mais en fait, ce n'est pas ni une maladie génétique, la maladie ne se transmet pas. Et puis, même si la maman peut avoir des petites poussées après, tout rentre dans l'ordre avec le temps. Donc, moi, j'ai vraiment eu 3 grossesses. à 6 ans d'intervalle, et finalement, ça s'est très bien passé, et la maladie s'est restabilisée après un certain temps. Et ce que je voudrais dire aussi quand même, ce qui est très important, c'est que je pense que d'avoir des enfants m'a aidé aussi à stabiliser ma maladie. Pourquoi ? Parce qu'à certaines périodes de rechute, finalement, ils m'ont donné beaucoup de force. D'avoir des enfants, ça m'a donné beaucoup de force. Donc voilà, vraiment, ça, c'est quelque chose qui me paraît important à dire. Il n'y a que des inconvénients à faire des poussées. Voilà.
Alors, Madame Archer, vous êtes aujourd'hui responsable du groupe d'intérêt myasthénie au sein de la FM Téléthon. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre démarche ?
J'ai rejoint le groupe myasthénie vraiment tout à fait par hasard. J'étais en lien de loin en loin avec le groupe. Je les avais contactés une fois, en fait. J'avais une période de ma vie où je n'allais pas bien. Et en fait, je cherchais un spécialiste de la myasthénie. Le groupe avait conservé mes coordonnées. Et il y a 15 ans environ, sur leur invitation, j'ai assisté à une réunion d'information sur la myasthénie. En fait, j'avais envie de savoir où on en était dans les traitements depuis 20 ans. J'étais malade. Et je suis rentrée en RER avec la responsable du groupe. Et nous avons échangé sur nos parcours de vie, d'expérience. Et environ 2 mois après, elle m'a appelée pour me demander si j'accepterais de venir à la permanence d'écoute téléphonique. C'était organisé tous les lundis à Évry. Et en fait, comme j'étais à un moment charnière de ma vie, ma dernière fille avait 6 ans. Elle devenait un petit peu indépendante, on va dire. Et donc, j'ai accepté de venir voir. Et puis, je suis restée à la permanence. Au fil du temps... j'ai réalisé que mon parcours de vie, mon expérience pouvait vous donner beaucoup d'espoir aux malades qui sont nouvellement atteints ou qui sont en période de poussée, et ça pouvait les aider à vivre en fait au quotidien avec la maladie. Alors c'est à la fois très valorisant pour moi, et puis en même temps ça m'a permis aussi de me retourner et de m'apercevoir des concessions, des adaptations et parfois des renoncements que j'avais dû faire à cause de la maladie. Mais en même temps, je me rends compte aussi avec l'écoute des gens, avec l'écoute des malades et des proches, c'est que finalement, la vie est toujours une question d'adaptation, qui est la maladie ou pas. Et donc, en fait, c'est ce que j'essaie un petit peu de partager avec les gens. Au fil du temps, je me suis formée à l'écoute, puis je me suis intéressée à l'éducation thérapeutique du patient, et finalement, jusqu'à faire un diplôme universitaire.
Et pour conclure notre entretien, Madame Archer, quels sont les objectifs et les projets du groupe d'intérêt myasthénie de la FM Téléthon ?
On fait beaucoup de choses, hein. Ça serait long à tout dire, mais en fait, au départ, vraiment, nous faisons de l'écoute téléphonique pour les patients. On fait de l'information aussi lors de cette écoute, par exemple sur les lieux de consultation, sur la prise en charge de la maladie, en fonction de la forme de la maladie. Les malades nous contactent aussi pour recevoir la carte de soins et d'urgence. Nous envoyons à leur médecin. Nous aidons aussi les malades dans la préparation de la consultation, par exemple comment ils peuvent aborder certains sujets, comment mettre en mots le ressenti des symptômes qu'ils ont, parce que c'est une maladie quand même qui est très particulière, elle est très imprévisible, elle est fluctuante, ça ne touche pas toujours les mêmes parties du corps. On a du mal parfois à identifier les symptômes, à mettre un mot, un nom sur les symptômes, et donc en fait souvent même le malade ne s'y retrouve pas. Et nous, comme on connaît la maladie, on la vit aussi au quotidien, et on les aide un petit peu à remettre un mot sur ce qu'ils ressentent, et puis à communiquer sur la maladie. Elle est aussi invisible souvent, donc en fait, c'est très compliqué d'en parler. Alors, on organise aussi des journées d'information en région, avec des spécialistes locaux. D'ailleurs, exceptionnellement, cette année, on a organisé aussi une journée, enfin même 2 journées d'information national au parc floral de Vincennes, et donc d'ailleurs on l'a enregistré et puis ça sera disponible prochainement en replay. On anime aussi un groupe de parole à l'étymologie, on construit des programmes d'éducation thérapeutique, notamment avec la consultation de Marseille. On participe à l'élaboration d'études cliniques, on fait de la relecture d'enquêtes, on partage les connaissances qu'on a sur la vie avec la maladie dans des groupes de travail, par exemple, pour contribuer à l'élaboration du protocole national de diagnostic et de soins sur la myasthénie, on participe au réseau national SLC. Voilà, donc on participe dès qu'on peut pour pouvoir parler un peu, porter la voix des patients, porter leurs attentes et leurs besoins et pouvoir expliquer aussi ce que c'est que cette maladie un petit peu bizarre. Voilà, sinon, on essaye de travailler sur des sujets qui contribuent à mieux faire connaître la maladie, ses conséquences. Et aider en dehors de la prise en charge médicale, paramédicale. On cherche à améliorer la qualité de vie des malades et des proches aussi. Donc là, on a des projets sur l'alimentation, le microbiote, l'exercice physique, le sommeil, la fatigue. Voilà, donc on a plein de projets de conférences, de groupes de travail sur ces sujets-là. Et donc, ça nous occupe bien.
Eh bien, merci mille fois, Madame Archer, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître cette maladie rare qu'est la myasthénie auto-immune ou myasthénia gravis. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram Rare à l'écoute ou notre site internet www.rarealécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette pathologie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite.